soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue sur les ondes hertziennes de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en moins de 10 minutes une question en lien avec les technologies numériques et informatiques qui se trouvent dans nos administrations, dans nos villes et dans nos poches et qui nous promettent un avenir smart, même si l'on ne sait pas toujours ce que cela veut dire. Depuis le début de cette série sur les moteurs de recherche, nous avons vu successivement comment les moteurs indexent le web et comment ils hiérarchisent les résultats. J'ai évoqué à quelques reprises l'enjeu financier, mais la question demeure. Comment ces moteurs créent du profit? Bon, la réponse en gros, vous la connaissez, la publicité. Mais nous allons voir que non seulement ça n'a pas toujours été évident, mais aussi que la pratique est plus subtile qu'il n'y paraît. Alors, de quoi parle-t-on? Reprenons un peu notre histoire des moteurs de recherche. Dans les années 1990, la question du modèle économique d'un moteur était un vrai casse-tête. Certes, ils attiraient un grand nombre d'utilisateurs, mais comment monétiser ce trafic? Guillaume Cyr, dans son excellent ouvrage « Les moteurs de recherche », explique que plusieurs modèles économiques ont été expérimentés par les entreprises. Alors, cela peut faire rire aujourd'hui, mais en 1994, le moteur InfoSeek a tenté de vendre un abonnement mensuel ouvrant le droit à 100 requêtes pour 9,95 $ états-uniens. Et il y avait même du hors-forfait à 10 centimes la requête. Je ne vous raconte pas le flop. Deux autres pratiques se développèrent pour financer la gratuité de consultation. La première fut l'affichage d'encarts publicitaires sur la page du moteur. Version numérique du panneau publicitaire dans la rue qui vous gâche la vue, mais dont l'efficacité croît avec la fréquentation. La seconde pratique est spécifique au commerce des logiciels. En effet, nous avons vu que les moteurs de recherche sont des logiciels, qui peuvent donc être vendus sous forme de licences. Les moteurs vendaient donc des licences à des sites qui souhaitaient un moteur sur leur page. Mais dans les années 1990, l'apport financier venait surtout des levées de fonds que ces entreprises obtenaient auprès d'investisseurs. Alors après l'éclatement de la fameuse bulle Internet en 2001, deux acteurs sont restés debout, Google et Yahoo. Durant la décennie 2000, Yahoo a choisi de se positionner comme un média, en rachetant et proposant une grande quantité de contenu produit par ses propres filiales. De son côté, Google s'est distingué en se positionnant comme un moteur de recherche avant tout, épurant sa page d'accueil le plus possible. Google a également créé de nombreux services a priori distinct de son activité de recherche. Gmail, Gtalk, Picasa, Google Translation, avant 2006, et puis à partir de 2008, Chrome, Chrome OS et bien sûr Android. Cette diversification des activités distinctes de la recherche en ligne a créé un écosystème vertueux pour le moteur. En effet, les autres services Google renvoient vers son moteur de recherche, assurant un flux d'utilisateurs. Par ailleurs, autre retombée bénéfique pour le moteur, ces services fonctionnent avec une connexion, en particulier le service de courriel Gmail lancé en 2004. Autrement dit, une identification de l'utilisateur qui permet de collecter des données associées à des profils, comme la lecture des emails par exemple. Ces données permettent de mieux connaître les utilisateurs du moteur de recherche et donc de proposer une personnalisation des résultats aux yeux de l'utilisateur. Elle augmente la pertinence des réponses. Par exemple, si vous cherchez l'adresse d'un restaurant, Google va savoir où vous habitez et va vous proposer celui qui se trouve dans votre ville et pas à l'autre bout de la France. Alors, comment ces moteurs ont commencé à produire leurs propres revenus? C'est un homme d'affaires californien, du nom de Bill Gross, qui est à l'origine d'une idée qui a changé la vie du moteur Google. Comme je vous l'avais dit, dans la préhistoire d'Internet, la publicité des moteurs se faisait principalement sur des encarts publicitaires autour du contenu pour attirer l'utilisateur. Bill Gross a fondé un moteur de recherche baptisé GoTo, littéralement « aller à », en introduisant le concept de lien sponsorisé. Autrement dit, les résultats de recherche contiennent des liens qui ne sont pas issus de l'algorithme, mais qui sont payés en fonction de la requête de l'utilisateur. Par exemple, un fabricant automobile paye pour apparaître lors des requêtes « voiture la plus solide ». Et son lien apparaîtra en tête des résultats pour cette requête. Deuxième innovation de Bill Gross, c'est la facturation au clic. Plutôt que de louer un espace sur un site, le moteur de recherche GoTo était rémunéré en fonction du nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur les publicités. Waouh, ça c'est un businessman. Mais son idée a été vivement critiquée dans la Silicon Valley comme une trahison de l'utilisateur. En effet, ses résultats seraient influencés par les entreprises qui paieraient de plus pour y apparaître. Mais les publicitaires se sont aussi attaqués à la publicité au clic, craignant que cela ne réduise leur marché. De leur côté, les fondateurs de Google, Larry Page et Serge Brin, eux, étaient un peu en train de se demander comment ils allaient gagner leur croûte. Donc, ils ont été très intéressés par les idées de Gross. En 2000, ils s'en inspirèrent pour lancer leur propre régie publicitaire AdWords, c'est-à-dire, en very good French, mots de publicité. Pour éviter un second pavé dans la mare, ils décidèrent de préserver la confiance des utilisateurs en séparant du côté gauche les résultats et du côté droit les liens affichés comme sponsorisés. Google continua ainsi dans sa logique de sobriété en refusant les bannières visuellement aguicheuses. Enfin, le système de paiement au clic a été mis en place avec un système d'enchères des entreprises sur l'achat de mots-clés. Par exemple, le mot-clé « meilleure voiture » est mis aux enchères et l'entreprise qui propose le meilleur prix, prix par clic, verra son annonce apparaître et devra payer Google le prix fixé à chaque clic. Alors, depuis les années 2000, les technologies se sont raffinées, ou perverties selon le point de vue, mais l'idée de base est bien là. Mais alors, réfléchissons un instant. Première chose, on voit bien que dans la Silicon Valley, les idées qui paraissent les plus scandaleuses à un moment donné, portées par les plus capitalistes des hommes d'affaires, peuvent devenir des modèles enseignés comme l'idée de génie dans les business schools quelques années plus tard. Ça rend pas mal de dystopies bien plus crédibles. Mais bon, deuxième chose. Nous avons vu que les services de Google, comme son système d'exploitation mobile ou son service de cartographie, renvoient tous vers son moteur de recherche. Mais on ne peut s'empêcher de poser la question de la réciprocité. Est-ce que le moteur de recherche renvoie vers les services Google ? On retrouve ici le problème de la séparation des deux grandes activités de l'entreprise, publicité et résultats de recherche. Comme l'explique encore Guillaume Cyr, cette fois dans un article de 2015 intitulé « 5 questions auxquelles Google n'aura jamais fini de répondre », il existe un problème inhérent au modèle économique de l'entreprise californienne. D'une part, elle offre un service d'information qui affirme offrir des résultats basés sur nos requêtes. D'autre part, Google propose toute une gamme de services dans un environnement concurrentiel. Autrement dit, l'évidence de la situation est que Google a tout intérêt à favoriser ses services dans son moteur de recherche. Dans un article intitulé « Left Side Quality versus Right Side Profits », l'économiste Alexander White met en lumière une contradiction économique fondamentale dans la posture de Google avec la qualité du côté gauche et le profit du côté droit. Comme il l'explique, cette approche pourrait être un cas de concurrence déloyale flagrant. L'entreprise, elle, continue d'affirmer qu'elle ne manipule pas ses résultats de recherche. Mais comment la croire ? Je vous ai parlé la semaine dernière de l'opacité des algorithmes depuis l'époque de PageRank. Dans ce contexte, comment savoir que Google fait ce qu'il dit, c'est-à-dire répondre à nos requêtes sans favoriser certains résultats ? Mais bon, et nous dans tout ça ? Alors, aujourd'hui, la pudeur s'est dissipée et les publicités sont mêlées aux résultats avec juste une petite notification comme quoi il s'agit d'une pub. Mais comme on est très intelligent, on n'est pas manipulé par la publicité. D'ailleurs, les milliards d'euros de bénéfices de ce marché se font sur le dos des autres gogos qui, eux, sont influençables. Eh oui, on croit tous qu'on est plus fort que la publicité. Mais il faut être réaliste et humble. Nous sommes tous influencés. Cela est d'autant plus vrai que ces mécanismes publicitaires sont opaques et que les technologies se perfectionnent de jour en jour. Alors, plutôt que de faciliter le travail de ciblage, la moindre des choses, c'est de se déconnecter de son compte lorsqu'on navigue sur d'autres sites. Mais j'ai un ami à moi qui s'amuse autrement. Il utilise Quant, Et lorsqu'il voit une publicité pour une entreprise qu'il n'aime pas, il clique dessus pour avoir la satisfaction de lui avoir fait payer quelques centimes. Oui, bon, j'ai des amis bizarres. On en a tous, non ? Pas vous ? It's okay.